Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. Des particules radioactives ont été décelées en République tchèque. Aucun risque pour la santé selon l'AIEA. Célébration de la journée des anciens combattants ce 11 novembre. Et puis du sport avec du tennis et la qualification pour les demi-finales de Tomáš Berdych. C'est à Paris, c'est l'Open de Paris-Bercy. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a fait état vendredi de niveau ne présentant aucun risque pour la santé d'iode 131, un élément radioactif dans l'atmosphère en République tchèque et dans d'autres pays européens. L'AIEA n'a pas révélé de quels autres états il s'agissait. Dans un communiqué, elle estime que les niveaux actuels d'iode 131 relevés ne représentent pas de risque pour la santé publique. Dana Drabová, responsable tchèque de la sécurité nucléaire, précise que ces particules pourraient être liées à la production de produits radiopharmaceutiques. L'iode 131 se trouve une utilisation essentiellement médicale et pharmaceutique, mais constitue également un risque important de contamination environnementale en cas d'explosion nucléaire ou d'accident nucléaire, en raison de sa présence comme produit de fission dans les réacteurs nucléaires, car il représente près de 3% des produits de fission de l'uranium. La République tchèque a célébré ce vendredi la journée des anciens combattants. À cette occasion, les représentants de l'armée ont déposé des couronnes de fleurs au pied du mémorial national de Vítkov à Prague. 6 vétérans ont été élevés au grade supérieur et 10 autres décorés. En République tchèque, la journée des anciens combattants a été célébrée pour la première fois le 11 novembre 2001. Ce vendredi 11 novembre également, précisément à 11h, des bouteilles du vin nouveau dit de la Saint-Martin ont été ouvertes à Prague, à Brno ainsi que dans d'autres villes du pays à l'occasion de la fête de la Saint-Martin. Le vin de la Saint-Martin, appellation protégée, est un vin primeur dont la commercialisation est autorisée immédiatement à la fin de la vinification. La tradition de ce vin est semblable à celle liée à l'arrivée en France du Beaujolais nouveau. Selon les estimations du Fonds viticole, la production tchèque du vin de la Saint-Martin pourrait atteindre environ 2 millions de bouteilles cette année, comparé aux 1,6 million de bouteilles vendues en 2010. Cette année, 125 viticulteurs ont produit 365 sortes de vins blancs, rosés et rouges. Les fêtes du vin de la Saint-Martin se tiennent notamment au centre de Brno en Moravie, où l'on peut déguster près de 100 sortes de ce vin. On passe maintenant au sport avec d'abord du tennis et Tomáš Berdych qui vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Open de Paris-Bercy, vainqueur du Britannique Andy Murray, troisième joueur mondial en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. Tomáš Berdych est donc qualifié pour la demi-finale. Il a déjà remporté ce tournoi de Bercy en 2005. C'est le dernier grand rendez-vous de la saison pour le Tchèque avant le Masters final de l'ATP World Tour. Un tournoi qui réunira à Londres à partir du 20 novembre les 8 meilleurs joueurs de la saison. Tomáš Berdych à Paris affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre l'Argentin Juan Monaco et le Suisse Roger Federer. Un mot de football également. Pour vous dire que c'est ce soir que l'équipe de République tchèque reçoit le Monténégro à Prague à l'occasion des matchs aller des barrages qualificatifs pour la phase finale de l'Euro 2012, un Euro qui se disputera, vous le savez, en Pologne et en Ukraine. Et malgré sa fracture du nez subie le week-end dernier en championnat d'Angleterre, Petr Cech, le gardien, sera protégé par un masque supplémentaire et devrait bien garder le but tchèque. Vous le savez, Petr Cech portait déjà un masque, enfin plutôt un casque, et portera désormais en plus un masque pour protéger son nez. Donc, et le match retour contre le Monténégro est programmé à Podgorica, capitale du pays, mardi prochain. Match crucial pour la sélection tchèque, donc. Un mot sur la météo avec un ciel partiellement dégagé, mais des températures en baisse avec ce samedi des températures maximales situées autour de 9 degrés Celsius. Voilà pour les infos. Plus d'infos, c'est sur le site internet de Radio Prague, www.radio.cz.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme préparé par la rédaction française de Radio Prague. L'usine aéronautique de Kunovice dans la région d'Uherské Hradiště au sud-est du pays a été jeudi le théâtre d'une fusillade qui a fait 3 morts, dont 2 membres de la direction de l'entreprise. Les médias parlent d'une affaire de vengeance liée aux activités du frère du meurtrier, un important vendeur d'armes tchèques. Nous vous en dirons plus dans un instant. La disparition du poète Ivan Martin Jiroš, dit Magor, le Maboul, le père spirituel de l'underground tchèque, fait également la une des journaux, son portrait dans cette émission. Dans le miroir de la société, il sera question de 2 regards différents sur l'ex-président tchécoslovaque Gustav Husák. Trois hommes ont été retrouvés morts jeudi dans les bureaux de la direction de l'usine aéronautique Aircraft Industries de Kunovice, à environ 260 km au sud-est de Prague. 2 hauts managers de la société tués par balle et le meurtrier qui s'est suicidé à l'arrivée de la police. Une affaire de vengeance, semble-t-il, au centre de laquelle se trouve un ancien vendeur d'armes très influent lié à l'achat douteux des véhicules blindés autrichiens Pandur par l'armée tchèque. Cette personne, proche des cercles politiques soupçonné de corruption dans l'affaire des blindés Pandur, est également impliqué dans la privatisation tout aussi suspecte de la société minière de Most. Cette personne donc s'appelle Pavel Musela. En octobre 2008, cet homme, âgé de 50 ans, alors président du conseil d'administration de l'usine de Kunovice, qui fabrique des avions de transport L-410, est grièvement blessé dans des circonstances aujourd'hui encore non élucidées. Au cours d'une partie de chasse, il chute d'un mirador et ne se rétablit plus jamais de cet accident. Paralysé, il a des difficultés de communication et souffre de perte de mémoire. L'incident a préoccupé l'unité policière chargée du crime organisé. Mais l'enquête n'a pas abouti. L'unique témoin de l'accident, ami de Pavel Musela, a été acquitté. Jeudi 10 novembre, le frère de Pavel Musela, Karel, lui aussi ancien employé de l'entreprise Aircraft Industries, pénètre dans les bureaux de la direction où se tient alors une réunion des hauts responsables de la société. Pendant 2 heures, il les tient en otage. L'accident se termine par une fusillade dans laquelle Karel Musela tue 2 membres de la direction, blesse légèrement la directrice générale de l'entreprise, avant finalement de se suicider. Tout porte à croire que l'agresseur a visé des personne concrète, a indiqué la porte-parole de la police locale, Yana Bartlikova, en précisant que l'acte était probablement motivé par des conflits personnels ou de travail. La radio tchèque a interrogé le journaliste Tomáš Sirovátka, qui s'est intéressé aux commandes publiques pour l'armée tchèque. Tomáš Sirovátka connaissait personnellement Karel Musela et n'a aucun doute à propos des motivations de son acte.
Karel Musela était absolument persuadé que les anciens partenaires d'affaires de son frère étaient à l'origine de l'accident de celui-ci. C'était un fait irréfutable pour lui, même si l'enquête policière ne l'a pas prouvé. Il n'avait pas de preuves non plus, mis à part le comportement suspect justement des hommes d'affaires proches de son frère. Karel Musela a affirmé qu'il n'avait pas souhaité que les circonstances de l'accident soient éclairées, qu'il lui avait demandé à plusieurs reprises de ne plus creuser dedans, puisque c'était un hasard malheureux, et c'est tout.
L'enquête policière sur l'affaire est en cours. Légèrement blessée dans la fusillade, la directrice d'Aircraft Industries a pu vendredi quitter l'hôpital. L'entreprise qui emploie 800 salariés est majoritairement détenue par la compagnie russe Uralskaya Gornometallurgicheskaya. Elle a été élue entreprise de l'année dans la région cette année. Jeudi s'est éteint le poète Ivan Martin Jiroš, grande figure de l'underground tchèque. Il avait 67 ans. Surnommé Magor, le Maboul ou le Cinglé, Ivan Jiroš était une grande gueule attachante à un des symboles de la lutte anticommuniste par l'art et la dérision. Un peu comme si Serge Gainsbourg avait vécu dans la Tchécoslovaquie d'alors. Comme beaucoup d'autres, il en a à l'époque payé de sa liberté, des séjours derrière les barreaux doublés d'une vie rock'n'roll qui ont aussi laissé des traces. Portrait avec Anna Kubeshta.
Avec le décès d'Ivan Martin Jiroš, difficile de ne pas se dire que c'est une certaine génération de Tchèques qui est appelée à disparaître dans un proche avenir. Une génération marquée par la dissidence vis-à-vis du régime communiste, mais aussi par les excès en tout genre. Né en 1944, Ivan Jiroš a fait des études d'histoire de l'art, mais aucune carrière scientifique ne l'attire, d'autant moins au sein d'un régime dans lequel il ne se reconnaît pas.
Bez nástroje zpíval svůj žalm.
Dès les années 1960, il écrit des articles, mais aussi des textes poétiques, dont il dit qu'ils doivent se lire comme on lit le bottin. František Starek dit Čunjas, ancien dissident et proche d'Ivan Jerous.
Je pense qu'on ne peut pas réduire sa personnalité à celle de poète. Il faut se rendre compte qu'il a surtout formulé les grandes lignes de l'underground tchèque. Des milliers, voire des dizaines de milliers de jeunes ont vécu et se sont créés des échelles de valeurs à partir de ces principes qu'il avait établis.
Comme pour beaucoup d'autres, en effet, la période de la normalisation modifie profondément l'existence de celui que bientôt tous appellent Magor, le Maboul. Il se fait le manager et donc le défenseur du groupe de rock mythique de l'underground, les Plastic People of the Universe. Dans les années 1970, il organise des concerts illégaux, des expositions interdites, inspire par sa personnalité de nombreux intellectuels en quête de sens dans un monde absurde. Intransigeant sur ses convictions et sur la nécessité de liberté, il passe en tout plus de 8 années en prison pour raisons politiques. František Starek.
Il était avant tout une icône. La pureté de son caractère était toujours une sorte de miroir par rapport auquel on évaluait sa propre personnalité. Et il a passé du temps en prison, souvent à la place de personnes qui n'auraient pas supporté l'épreuve.
Habitué des provocations en tout genre, imprégné de l'esprit rock'n'roll jusque dans sa vie quotidienne, alcool compris, Magor l'excentrique était aussi pour ses proches un homme chaleureux sur lequel on pouvait compter, un homme qui portait en lui une foi sincère, presque inattendue tant il fut iconoclaste. Ce n'est pas là le moindre des paradoxes des fortes personnalités. František Starek.
La foi l'a beaucoup influencé. Il était profondément croyant. Quand il fallait vaincre un obstacle, il s'appuyait sur la foi.
Au lendemain de sa disparition, les témoignages affluent pour rendre hommage aux poètes, aux dissidents, aux compagnons de route et de galère. Parmi les souvenirs et condoléances exprimées, ceux de l'ancien président et ancien opposant Václav Havel ou encore de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, qui tous deux ont souligné l'apport moral et intellectuel de Magor à la société tchèque.
La semaine prochaine, 20 ans se seront écoulés depuis le décès de Gustav Husák, une des figures les plus controversées de l'histoire moderne slovaque et tchécoslovaque, comme le caractérise la presse nationale qui évoque largement cet anniversaire. Rappelons que Gustav Husák, président de la République tchécoslovaque de 1975 à 1989, est numéro 1 de la nomenclatura communiste du pays après l'écrasement du fameux printemps de Prague en 1968 par les troupes du bloc soviétique, est devenu en quelque sorte le symbole de la sinistre normalisation dans les années 70 et 80. Et puis, la capitale tchèque reste riche en dépit de la crise. C'est du moins ce que constate un article qu'Alena Gebertova a également lu pour vous en l'écoute.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
La sombre période communiste a ses protagonistes notoires. Le criminel Clement Gottwald, le traître Vassil Belak, l'esprit simple Miloš Jakeš. Mais on oublie souvent d'ajouter Gustav Husák à la liste des principales figures du régime. Écrit l'hebdomadaire Respect, qui souligne que le parcours de cet homme mérite donc d'être rappelé. Il poursuit.
Les Tchèques portent sur Husák un regard moins négatif que sur ses compagnons, notamment parce qu'il a séjourné en prison dans les années 1950. Beaucoup apprécient en outre sa formation de juriste, son intelligence et son talent de narrateur, autant de qualités qui semblent le différencier du noyau staliniste dur. En plus, pendant le printemps de Prague, il a soutenu l'aile réformatrice. D'ailleurs, la fonction de président jouit en Tchéquie traditionnellement d'un grand prestige.
Mais comme le constate également le journal, la réalité est assez différente. Par définition, chercher des côtés positifs chez ces politiciens est impossible, compte tenu du caractère perdu du régime qu'ils servaient. Husák en sera un exemple on ne peut plus éloquent. L'auteur de l'article, Marek Švehla, écrit.
Dès le début du stalinisme en Tchécoslovaquie, Husák a été un de ses créateurs fervents et assidus. Son emprisonnement n'a été qu'un épisode qui n'a nullement modifié sa conviction. Libéré, il s'est adapté de bon gré à la nouvelle donne. Il a ainsi abandonné sa position de réformateur pour devenir le leader du régime collaborateur, une sorte de protecteur qui n'était pas envoyé cette fois de Berlin, mais de Moscou, et de renchérir.
Finalement, Husák devient l'homme qui, après d'immenses péripéties et une énorme envergure, réussit à accomplir son rêve, consistant à ce que, de facto, la Tchécoslovaquie, pour une longue période de 20 ans, fasse partie de l'Union soviétique.
Husák serait, d'après le journal, la figure permettant, plus qu'une autre, de comprendre l'histoire tchécoslovaque.
Petr Třešňák retrace en détail, dans les pages du même journal, la vie et le parcours politique de cet homme né en 1913, dans un quartier périphérique de Bratislava, capitale slovaque. Il considère lui aussi qu'objectivement parlant, Gustav Husák serait allé plus loin encore que le premier président ouvrier Klement Gottwald, généralement perçu comme le symbole de la plus grande terreur communiste dans l'ancienne Tchécoslovaquie, il précise.
Husák a participé à toutes les représailles, à toutes les purges qui ont accompagné la terreur survenue au lendemain du putsch communiste de février 1948. Il s'est engagé activement dans les processus d'arrestation de propriétaires agricoles, de collectivisation ou de liquidation des églises.
En 1954, il devient lui-même l'objet d'un de ces procès montés de toutes pièces dans les années 1950, à l'issue duquel il sera condamné à 10 ans de prison ferme. 6 ans plus tard, il sera amnistié avant d'être complètement réhabilité. Le journal Respect cite à ce sujet l'historien Zdeněk Doskočil.
La prison n'a nullement changé le regard de Husák sur la forme du communisme telle qu'il l'avait connue dans les années 1940. Dans son discours, il prenait ses distances avec le stalinisme, c'est vrai, mais sa pensée demeurait staliniste.
L'étoile de Husák monte brusquement après l'étouffement du printemps de Prague en 1968 par les chars soviétiques. En cherchant un futur leader tchécoslovaque, c'est en effet lui que Moscou choisit. Husák devient d'abord chef du parti communiste, puis président de la République. Selon Petr Třešňák, sa carrière peut être vue sous 2 angles.
Après la décennie de dégel, la Tchécoslovaquie est devenue, sous sa gestion, une sorte de république soviétique dirigée directement de Moscou. Les témoins de l'époque estiment cependant qu'au début de la normalisation, Husák a voulu sauver quelque chose des précédentes réformes libérales, qu'il n'était pas un simple cynique froid et une marionnette soviétique. Mais de toute façon, faute de bonne volonté, de courage ou de vision, il n'a pu imposer aucune libéralisation.
Il conclut, le système normalisé qu'il a bâti et dont il n'a jamais contesté l'idée fondamentale l'a finalement dévoré.
Dans le quotidien Lidové noviny, Lubomír Palata présente un autre point de vue, estimant que le regard des Tchèques qui ne voient en Gustav Husák un symbole de la normalisation communiste est schématique. Il souligne notamment qu'aucun homme politique n'a influencé la Slovaquie aussi fortement que lui, il explique.
Il a imposé la fédéralisation de l'État, qui a permis de créer en Slovaquie les institutions qui ont donné lieu en 1992 à la création d'un État slovaque indépendant. De ce fait, Gustav Husák est un des pères fondateurs de la Slovaquie indépendante. Grâce à un transfert de moyens budgétaires équitables, le niveau de vie en Tchéquie et en Slovaquie s'est équilibré.
Selon l'auteur de l'article, un grand nombre de Slovaques gardent encore aujourd'hui un souvenir nostalgique de la normalisation, la considérant comme la meilleure période de leur vie, celle-ci ayant par ailleurs été beaucoup plus modérée en Slovaquie qu'en Tchéquie. En conclusion, il écrit
« Il sera intéressant de suivre la façon dont la Slovaquie va appréhender le 20e anniversaire de la mort de Gustav Husák, l'unique Slovaque qui ait jamais gouverné les Tchèques. Je devine que cet homme y sera, ne serait-ce que modestement, honoré. »
La crise économique ne semble pas encore avoir touché la capitale tchèque, constate une des dernières éditions du quotidien Mladá Fronta Dnes. Prague demeure donc une ville riche, mais seulement comparée à d'autres régions et villes tchèques, et non pas par rapport à la plupart des pays européens. Le journal écrit.
Selon la récente étude d'une agence sur le pouvoir d'achat de la population dans les différentes régions de la République tchèque, les Pragois peuvent se permettre de dépenser beaucoup plus que les habitants des petites villes ou ceux qui vivent en Moravie, partie orientale du pays, ou dans le nord-est de la Bohême. Ainsi, les différences et les écarts entre les régions riches et les régions pauvres ne cessent de s'accroître.
À noter que les différences qui existent entre l'Ouest riche et l'Est pauvre ne suivent pas en République tchèque le clivage habituel entre le Nord et le Sud.
Prague, quant à elle, constitue une îlot à part, constate le journal qui précise. Le pouvoir d'achat à Prague dépasse la moyenne nationale de 32%. Cette situation profite aussi aux communes et petites villes qui se situent dans les environs de la capitale, telles que Žičany, Stará Boleslav ou Čelákovice, qui ont un niveau de vie plus élevé que par exemple Plzeň, chef-lieu de Bohême occidentale.
Aussi bonne que soit la situation des Pragois, l'article publié dans le quotidien Mladá Fronta Dnes signale qu'elle demeure pourtant nettement inférieure à celle des habitants des pays développés de l'Europe. Ainsi, la richesse des ménages dans la capitale tchèque n'atteint que 78% de la moyenne européenne.
Ceci dit, la situation de l'ensemble des habitants du pays semble meilleure que celle des pays voisins, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Ce dernier pays évolue cependant en se rapprochant rapidement de nous, conclut le journal.
C'était le miroir de la société à la lumière de la presse par Alena Gebertova. Le programme de Radio Prague se termine. Magda Hrozinková au micro vous remercie de votre attention. Très bon week-end à toutes et à tous.